tous, auditrices et auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui des cinq coins de la France. Et bienvenue au public qui s'est massé nombreux sous le puits de lumière du Quartz de Brest pour assister à cette émission en direct du festival Longueur d'onde. Avec plus de 30 ans d'existence, les radios associatives sont aujourd'hui bien implantées dans le paysage audiovisuel français. Elles sont reconnues pour leur rôle important dans la promotion des musiques actuelles, pour la diffusion d'informations locales, ou les actions culturelles qu'elles mènent sur leur territoire. Mais qu'en est-il de la création radiophonique? Comment s'exprime-t-elle sur les ondes et quel est son rôle? Voici quelques questions que nous aborderons sur ce plateau avec Mélissa. Bonjour Mélissa.
Bonjour.
Et Lolita.
Bonjour.
Donc Mélissa de Radio Campus Tours et Lolita de Studio Zef à Blois. Nous écouterons tout au long de cette heure d'émission des extraits de vos productions, mais avant de commencer l'écoute et le débat qui s'ensuit, je vous laisse vous présenter et présenter votre parcours dans la radio associative.
Oui, alors c'est vrai que j'ai tout de suite rencontré Studio Zef. Donc Studio Zef, c'est une radio associative à Blois, qui est la ville dans laquelle j'habitais et que j'habite toujours, parce que j'avais à l'époque, c'était en 2012, un projet personnel, un espèce de rêve que je voulais réaliser. Je voulais fabriquer une radio clown caravane et partir sur les routes pour enregistrer les gens. Je pense que c'était un espèce de rêve qui se fabriquait de mes imaginaires et de mes écoutes de l'époque, qui étaient très liées à France Culture, notamment sur les docks et les pieds sur terre, mais avec une situation incarnée, et puis surtout absolument aucune formation, aucun outil. Et donc je suis allée frapper à la porte de cette radio associative très très spontanément, et j'ai été accueillie à l'époque par une salariée qui m'a dit que ce projet était intéressant et qu'effectivement il pouvait y avoir une place dans les radios associatives pour ce genre de projet. Puis ensuite, de fil en aiguille, j'ai réalisé mon projet de Radio Clown Caravane, et après je n'ai plus jamais quitté cette radio associative, en fabriquant des émissions, en inventant des nouvelles chaque année, en m'associant à des amis, et puis surtout en devenant très investie dans une association qui rassemble tous les bénévoles de cette radio et qui s'appelle Les Effets Sonores.
Donc une idée, un rêve qui t'a fait pousser les portes d'une radio associative.
Ouais, c'est ça.
Et pour toi, Mélissa ?
Eh bien, moi, j'ai toujours beaucoup écouté en fait la radio, hein, donc comme Lolita, beaucoup France Culture, et c'est vrai que c'est une amie qui m'a emmenée à Radio Campus, à l'époque où j'étais étudiante en master. Donc cette amie, c'est Solène Berger, qui est toujours membre du CA de Radio Campus Tours. Et j'ai commencé à faire de la radio en faisant des chroniques cinéma. Et puis après, au cours d'un stage à Marseille, ma mission, c'était de mettre en place des ateliers d'écriture, des ateliers contes, dans les camps de primo-arrivants, Rome, puisqu'en 2013, à Marseille, on parlait beaucoup des populations roms, qui sont toujours là d'ailleurs. Et les gens me disaient des choses tellement étonnantes, incroyables et difficiles que je cherchais en fait comment je pouvais garder une trace de ce discours sans le déformer. Et j'avais absolument aucun moyen de le faire à part mon appareil photo. Donc j'ai filmé les gens avec le cache. Et c'est à partir de ces films tout noirs avec du son que j'ai cherché comment on extrait un son, comment on fait du montage. Et à partir de ça, j'ai commencé à faire des émissions, des enregistrements. Et c'est comme ça que sont nés les premières émissions, le DAU, puisque je fais cette émission-là.
Qui existe toujours.
Qui existe toujours et qui, je crois, est diffusée sur ZEF.
Tout à fait.
Et voilà, et je suis aujourd'hui chargée d'antenne à Radio Campus Tours.
Donc toi, c'est l'écriture et la rencontre directe qui t'a fait venir à ce média, à la radio, pour parler avec les gens et retranscrire leurs paroles.
Voilà.
On a vu dans différents débats tout au long du festival Longueur d'onde qu'il était difficile de définir la création radiophonique dans la radio associative parce qu'elle est spontanée, désorganisée parfois. Et donc pour présenter, essayer de définir un peu la création radiophonique dans les radios associatives, on s'est vite tourné vers l'écoute tout simplement. Donc on va écouter une série d'extraits d'émissions que vous avez réalisées. Et on va en discuter tout au long pour définir un peu notre thème d'aujourd'hui. On commence, on se met l'eau à la bouche avec un premier extrait. Ça s'appelle « Une place à table ».
Et on fait aussi des bananes séchées.
Comme les petites bananes qu'on trouve pour l'apéritif en sachet. Et du coup, c'est des tranches de bananes de 5 mm d'épaisseur qui sont juste passées dans le citron et après mises au four pendant à peu près 8 heures à 70 degrés.
Et les carottes. Ouais, les carottes pour éplucher les patates et les oignons, puis c'est pour faire le lapin à la moutarde.
Tu as fait couper les blettes ?
Couper les blettes ?
Oui.
En petits morceaux pour faire la soupe.
C'est du cerfeuil qu'on est en train de trier. On enlève les branchages qui sont jaunes. On garde les plus verts.
Ce sont les dernières carottes d'hiver de la Sarthe. On va les cuire en cocotte.
Avec le lapin.
Avec le lapin. Comme ça, ça aura un bon goût sucré. Et une belle couleur.
Et le four, il en est où?
Eh ben, c'est ce qu'on va voir tout de suite.
Olivier va ouvrir la casserole et on va découvrir.
Hop là, regarde dans ça.
C'est super. Oh, ça sent bon ici. C'est un délice, un régal.
Ce midi, ouais, on fait du lapin à la moutarde. Vu que dans la thématique de l'atelier, on fabrique de la moutarde. On se fait un petit lapin moutarde.
Aïe. Mais faut pas le martyriser, ce pauvre lapin.
Mais je le martyrise pas, faut bien le découper, il y a des os quand même.
Voilà, un lapin moutarde qui est en train de se préparer. À qui appartiennent ces voix, Mélissa? C'est une de tes réalisations.
Alors, pour être précis, c'est un atelier radio, en fait, qui a été monté en parallèle d'un atelier cuisine. C'est pour ça qu'on entend un des cuisiniers qui parle d'atelier cuisine. Et cet atelier radio, il a été réalisé au sein des pensions de famille du réseau de la Fondation Abbé Pierre de Tours. Et l'idée, c'était de donner les enregistreurs aux résidents des pensions de famille pour qu'ils puissent eux-mêmes faire des reportages, des interviews. Et les sons qu'on entend là, c'est une bande-son qui a été construite à partir de plein de captations qu'ils ont fait pendant plusieurs mois d'ateliers culinaires. Et cette captation-là, en fait, elle est beaucoup plus longue, elle doit durer un quart d'heure au moins. Et elle s'appelle Lunchbox. Et elle a servi de fond sonore à une exposition photo qui a été présentée au festival Une Place à Table. Voilà, donc qui était le festival organisé par les pensions de famille du réseau Fondation Abbé Pierre autour de la précarité alimentaire.
Alors comment ce projet il a évolué vers cette exposition, vers cette participation à ce festival Une Place à Table? Est-ce que c'était déjà dans le projet initial?
Alors pas du tout, à la base le projet c'était d'aller faire une émission, le DAU, un reportage sur les pensions de famille, sur la précarité alimentaire, puisque c'est des gens qui mangent en fait des choses qui leur sont données par la banque alimentaire. Et ce que je voulais montrer, c'était comment au quotidien ils s'en sortent, comment ils préparent les repas, comment on fait à manger quand on ne sait pas forcément cuisiner, quand on ne choisit pas les produits qu'on a dans le frigo. Et je suis venue là-bas avec mon enregistreur, et finalement c'est la curiosité des résidents qui a donné lieu à cet atelier, parce qu'ils sont venus vers moi pour me demander c'est quoi cet appareil, ça sert à quoi, pourquoi tu fais du son. Et plutôt que de faire le son moi-même, je me suis dit, mais après tout, pourquoi ce ne serait pas eux qui parleraient eux-mêmes de leur quotidien, de ce qu'ils vivent? Et je leur ai donné simplement l'enregistreur. Je leur ai montré comment ça marchait. Ils ont fait eux-mêmes les sons. Et finalement, cet atelier, il s'est fait en se faisant. Il n'était pas du tout prévu. Il n'y avait aucun projet qui avait été écrit. Et finalement, c'est les résidents qui ont eu envie de continuer le projet radio. Ils m'ont demandé de venir avec eux au festival, Une Place à Table. Donc je suis venue avec des enregistreurs sur place. Ils ont continué à faire des interviews, des reportages. Et à partir de ces sons-là, on a fait encore après, plusieurs mois après, des émissions en direct depuis les studios de Radio Campus Tours, où les résidents pouvaient revenir sur cette expérience d'atelier, sur cette expérience de festival, et expliquer aussi, en vivant, si on peut dire, leur rapport à la nourriture, à partir de toute cette banque de sons. Donc voilà, ça s'est construit vraiment au fur et à mesure.
Et collectivement aussi.
Tout à fait.
Et c'est eux qui te poussaient à chaque fois à continuer, à aller plus loin? Et ben, ça a été dans les deux sens?
En fait, je pense que ça a créé une envie commune. C'est parce que moi, là, concrètement, je suis arrivée seulement avec le Zoom. Et après, l'idée de l'atelier, ça a été fait aussi bien par les résidents, parce qu'ils sont vraiment partie prenante de ce qui se fait dans les pensions de famille. Il n'est pas question de leur imposer une activité. Et ce qui était très intéressant, c'est que finalement, dans cette idée de radio, de projet radio, donc les résidents s'y sont investis, mais aussi le personnel, en fait, les encadrants. Donc il y avait des éduques, il y avait des stagiaires, et eux aussi se sont retrouvés à faire des sons, à enregistrer. Et donc c'était vraiment l'idée du collectif élargi, et c'est ça qui était intéressant. Alors qu'on ne s'était même pas consulté, en fait, on ne s'était même pas dit on fait un truc tous ensemble, c'est juste que ça s'est fait. Et donc c'est pour ça que moi je crois beaucoup au pouvoir, enfin pouvoir si on peut dire, que la radio a cette capacité à lier les gens, en fait. Parce que c'est simple, et parce qu'il y a l'idée vraiment de quelque chose de collectif, et ça marche bien avec la radio.
On va passer à une création un peu plus solitaire avec toi, Lolita. C'est une émission matinale que tu fais tous les lundis, donc sur Studio Zef, qui commence pendant la nuit et qui finit au jour, quand le jour est levé.
Oui, c'est ça. C'était une envie personnelle de prendre un peu plus le direct après quelques années d'expérience et d'expérimentation radio. Et donc, depuis cette année, l'ordre du jour donc, se place tranquillement dans la douceur du matin sur Studio Zef. Donc, l'heure varie parce que ça dépend de l'heure à laquelle le soleil se lève. Mais l'idée, c'était de donner un peu mon goût du matin. Et c'est vrai qu'en discutant et en écoutant Mélissa, c'est vrai que la radio, à un moment donné, pose vraiment la question, est-ce que la création sonore, elle est solitaire ou est-ce qu'elle est à plusieurs? Est-ce que c'est un mélange des deux? C'est vrai qu'on est souvent aidé déjà tout simplement par les techniciens, par le directeur de la radio, comme toi par exemple aussi, les retours des auditeurs évidemment. Donc il y a déjà une participation collective à ce moment-là. Et puis dans cette émission, l'ordre du jour, je l'ai commencé la première fois toute seule et je me suis sentie effroyablement seule. J'étais dans le noir le matin, à 6h du matin, j'avais poussé la porte du studio, il n'y avait personne. Et puis je parlais pendant une heure à je ne savais pas qui. Et puis dès la deuxième émission, je me suis dit j'ai besoin d'acolytes en fait, j'ai besoin de personnes autour de moi, mais je ne vais pas les faire venir à Blois, je vais aller leur demander de participer autrement en m'envoyant des sons. Et c'est ce qu'on va écouter peut-être avec cet extrait, puis on en reparle après.
Tout à fait.
Vous êtes toujours en direct sur Studio Zef. D'autres sons me sont arrivés. Depuis son scooter, il observe le monde. C'est Ben à Paris.
Place des Victoires, dimanche soir, 18h30. Personne. Kenzo, Gérard Darrel, les petites, Agatha, Pronomias, la maison Sarah Lavoine, Agence Immobilier, Zadig et Voltaire, Zenia, Chipos ou Kripos ou Kripoas, Victoire. Tout est fermé, quelques lumières éclairées, Louis XVIII brille au milieu. Je rentre.
Et un autre son venu de Bristol, c'est Alban qui quitte l'Angleterre ce matin et compte les rivages des gares routières.
Salut l'ordre du jour. Aujourd'hui, ce sera un voyage à travers la Manche par le bus. Du coup, je suis dans la gare de Victoria Station à Londres, après avoir fait 2 heures de train depuis Bath. Il est 21h et dans 30 minutes, je vais embarquer dans un bus. C'est assez marrant. C'est pas glauque, mais c'est spécial. C'est plein de valises partout. Des grands tableaux avec des horaires de bus qui vont partout, partout, partout en Europe. De l'Écosse, du Pays de Galles jusqu'à en Hollande, même en Pologne, etc. Enfin bref. Du coup, c'est une atmosphère assez particulière. Je me demande toujours comment les chauffeurs de bus font pour travailler. Faut faire ce travail. Un travail nocturne qui dérange personne, qui emmène que des gens qui vont s'endormir pendant tout un trajet.
Voilà un condensé eh bien, des différentes voix qu'on peut écouter dans cette émission l'ordre du jour.
Deux sur, en fait, ça varie chaque lundi matin. Il n'y a pas forcément toujours les mêmes intervenants, mais ces deux-là reviennent souvent. Et en fait, se pose la question, à un moment donné, j'avais des espèces d'images, de flash de ce qu'il pourrait faire. Par exemple, Ben, il est tout le temps fourré sur son scooter à Paris, donc je lui ai demandé, est-ce que tu pourrais, avec ton smartphone, t'enregistrer sur ton scooter? Et c'est vrai que, du coup, il y a une forme de commande de ma part, mais ensuite il y a une forme évidemment d'improvisation et de don, de générosité de ces gens-là qui m'envoient des sons, très souvent très tard le dimanche soir. Et du coup ça pose aussi la question de l'outil, et c'est ce que tu disais Mélissa, c'est que là par exemple il n'y a pas d'enregistreur, il n'y a pas de technique particulière, il y a juste un smartphone, et puis le fait de verbaliser ce qu'on est en train de voir, ce qu'on est en train de vivre, de transmettre une émotion, de transmettre un moment, voilà, il y a plusieurs façons de, par exemple j'ai un autre ami qui est en train de faire des chantiers, qui est en train de reconstruire sa maison et qui du coup me fait des chroniques de chantier, c'est-à-dire il lit des textes dans un fond de son de son chantier. Donc, enfin, il peut y avoir plein de choses différentes selon chacun.
Et en fait, sur la radio, on entend à la fois ta voix qui est dans le studio qu'on présente, mais aussi ces voix avec plein d'ambiance derrière, plein de sons, plein de bruit et de personnes très lointaines. Donc là, on était en Angleterre, par exemple.
Oui, puis alors j'ai un autre exemple rigolo, c'est que donc l'ordre du jour, il peut se réécouter donc sur le site internet de Studio Zef. Et donc j'ai un ami qui est parti en voyage en Équateur. En fait, qui est le frère d'un ami qui fait la chronique de chantier. Il est parti en voyage en Équateur et là-bas, il marchait dans la montagne avec un de ses amis, qui lui descend toute l'Amérique du Sud à pied. Et puis ils ont écouté l'ordre du jour. Et puis, depuis, je reçois des sons de ce frère, Rémi, qui m'envoie des sons. Voilà, il marche la nuit, un peu comme un hobo moderne, et du coup, il m'envoie des sons. Et puis, je reçois aussi des sons de ce garçon que je ne connais absolument pas, qui descend l'Amérique du Sud à pied, et qui m'envoie des descriptions des paysages qu'il traverse. Voilà, donc Quentin, je sais absolument pas qui c'est, mais donc je diffuse certains de ces sons qui m'arrivent. Et ça, c'est chouette aussi de voir que, par transmission, par simplicité aussi, plein de choses peuvent émerger et participer à cette ambiance de création collective. Donc maintenant, je suis moins seule, beaucoup moins seule le lundi matin.
Tu es seule dans le studio, mais plein de voix qui t'accompagnent voilà. Dans cette matinale. Et ça, c'est rendu possible notamment grâce à l'utilisation d'Internet, des nouvelles technologies. Généralement, ils utilisent leur smartphone pour prendre un petit moment de leur quotidien qu'ils ont envie de chroniquer et passer à la
parce
radio.
Il faut que ce soit très simple et très rapide, parce que sinon, bien évidemment, ils ne le font pas, parce qu'ils ont autre chose à faire, parce qu'on a toujours un quotidien. Mais ils tiennent, je crois, à cette minute de poésie. Alors Alban, par exemple, elle m'envoie toujours 10 sons parce qu'elle n'arrive jamais à choisir. Benjamin, il m'envoie toujours un petit son très court le dimanche soir, 23h30, mais chacun a sa façon de faire, mais en tout cas, ce petit moment de poésie, je crois qu'ils y tiennent, mais il faut que ce soit simple. Et le son, en fait, ça peut être très vite très simple, notamment grâce à ces nouvelles technologies. Et puis on peut dire des choses très simples et que ce soit très beau, je trouve, à l'antenne. Donc ça, c'est bien parce que c'est voilà, un outil quand même très populaire, en fait.
On va passer à une autre partie d'émission. On va parler un peu des ateliers. On en a parlé rapidement, Mélissa, que tu animes. Et puis, on va prendre aussi l'exemple d'un atelier que toi, tu as animé avec une autre casquette, celle de professeur à l'école du paysage, Lolita de Blois. Et on va écouter un premier son. D'abord, on part dans une gare avec une ambiance assez anxiogène, je dois l'avouer.
Les TGV 254, 200, destination, départ, initialement prévu à 6, est amassé avec un retard d'entrée en gare, 25 minutes. Merci de votre compréhension. Marc de la Vallée Chessy, aéroport Charles-Blanche de TGV, TGV Haute-Pierre, TGV Saint-Laurent 254. Pour connaître la position actuelle de Nantes, veuillez consulter le tableau de composition des trains situé sur le quai. L'entrée en gare dans le cas. Les agents sont présents sur le quai pour vous renseigner et vous orienter. Aéroport Charles de Gaulle 2 TGV, TGV Haute-Picardie et Lille-Rhin. Pour connaître la position des voitures, veuillez consulter le tableau de composition des trains situé sur le quai. Rappelons aux personnes accompagnant des voyageurs de ne pas monter dans les voitures. Des agents sont présents sur le quai pour vous renseigner et vous orienter.
Le premier TGV entrant en gare voie numéro 4 sera le TGV 5205.
Voici avec un retard de 14 minutes. Avec un retard de 14 minutes. Voici avec un retard de 14 minutes.
Le TGV circule avec un retard de 15 minutes environ. Mesdames, messieurs, merci pour votre attention.
Alors ce son est sorti d'un atelier d'écriture avec la coopérative Artefact. On la présente rapidement, c'est une coopérative d'activité d'emploi culturel en région centre. Comment êtes-vous arrivé à ce son? J'ai dit avant de l'écouter qu'il était anxiogène, est-ce que c'était voulu?
Alors en fait, en effet, Artefact c'est une coopérative d'acteurs culturels en région centre et précisément donc j'en fais partie. Je fais partie du pôle écriture au pluriel en tant qu'auteur sonore. Donc comme quoi on peut être auteur sonore en n'ayant aucune formation en son. Voilà, ça nous semble évident en tant que personne de radio associative, mais j'éprouve le besoin de leur dire. Et en fait, ce son, il appartient à une bande-son qui fait 16 minutes, et dont le sujet, c'était « Parlons-nous tous la même langue ?» Et la bande-son est découpée en 5 chapitres. Donc ça, c'est un tout petit fragment en fait, du 3e chapitre, je crois. Et l'objectif de cette bande-son, c'était d'être une impulsion pour des ateliers d'écriture pour 3 autres auteurs du pôle écriture qui sont des auteurs littéraires. Enfin, disons, donc il y avait une personne qui fait du théâtre, une personne qui est plus romancière et une personne qui est poète. Et ce qu'on voulait faire, c'était un événement commun pour lancer le pôle d'écriture parce qu'il est né en mars dernier. Et on voulait proposer aux personnes qui participeraient aux ateliers d'écriture déjà de découvrir 3 styles littéraires, théâtre, roman et poésie, et pour guider leurs gestes d'écriture, de s'imprégner d'une bande-son, pour y trouver de l'inspiration. Et l'idée, c'était que l'écriture sonore précède l'écriture littéraire, si on peut dire. Et donc l'atelier a duré sur une journée entière. Les gens ont commencé par écouter cette bande-son, qu'ils ont trouvée amusante, anxiogène, ennuyeuse, fantastique, selon, en fait. C'est très intéressant pour moi aussi de voir quel écho ça peut faire chez les gens. Et à partir de ça, ils ont écrit des textes. Et pour terminer cette journée, on a fait une émission en direct depuis la coopérative Artefact, où on a pu lire les textes qui ont été produits dans la journée. Et pendant ces heures d'atelier d'écriture, puisque moi, je n'avais pas d'atelier, hein, c'est pas mon... L'écriture papier, si on peut dire, c'est pas mon domaine. Moi, je faisais des captations sonores et j'en ai fait des pastilles qui sont venues ponctuer cette restitution. Et donc, c'est intéressant de voir comment l'écriture sonore pouvait précéder l'écriture écrite, l'agrémenter et puis aussi, finalement, quelque part, la conclure, puisque même si on lit les textes, finalement, on les transforme en son, en voix. Et c'était tout ce voyage entre l'écrit et le sonore qui nous intéressait, en fait. Voilà.
Et toi, quelle est ta place dans ce pôle écriture? Tu l'as expliqué, il y a à la fois une écriture peut-être plus littéraire et puis l'écriture radiophonique ou sonore. Comment tu as réussi à justifier ou trouver ta place dans ce pôle?
Bah, c'était pas simple déjà parce que j'étais la dernière arrivée dans la coopérative, j'étais la plus jeune, et c'est vrai qu'au début, j'étais face à des gens qui me disait, bah, moi j'ai 30 ans d'expérience d'atelier d'écriture, moi je suis auteur, j'ai publié tant de livres, et donc moi j'arrivais, j'ai envie d'être auteur sonore, je suis auteur à la SCAM, oui alors. Et c'était pas forcément facile d'entraîner les gens dans un projet radio, écriture sonore, parce que peut-être qu'ils ne voyaient pas trop en fait, où je voulais les emmener. Et puis je crois qu'il y a une idée de faire confiance aussi. J'ai l'impression que c'est encore un peu étonnant des fois de se dire que finalement le son, l'image, moi j'ai l'impression que c'est la même chose. C'est une façon, un outil pour s'exprimer, mais je conçois que ce soit pas forcément évident pour des gens qui utilisent vraiment les mots. Mmh. Donc, je sais pas si je réponds à la question. Mais...
C'est assez clair, merci. Enfin. Est-ce que pour vous, l'écriture et la radio sont intimement liées ou il y a une différence?
Bah oui, moi je pense que dans toute forme d'écriture, il y a effectivement une forme d'expression, une forme d'imaginaire, et qu'on utilise l'univers sonore, l'univers écrit, l'univers dessiné, qu'on les mélange tous les trois, c'est tout à fait possible. On vit de toute cette complexité-là, et à partir du moment où on sépare les choses, on se trompe un peu toujours.
On va écouter un autre son maintenant. C'est un son qui a été réalisé lors d'un atelier que tu as animé, que tu as créé, réalisé à l'école du paysage de Blois, où tu es professeur, avec des élèves paysagistes. On l'écoute et puis on en parle juste après.
On est dans une cour de ferme. Il fait chaud. Tout est blanc. Il n'y a pas un corps qui bouge. C'est sec. À l'entrée du village, il y a un champ de noyers. Ils sont encore petits, mais c'est déjà vert en dessous. Ça change. Et juste de l'autre côté de la route, il y a un grand noyer qui laisse imaginer ce que le champ pourrait devenir. On a d'autres ambiances, une onde, la fesse, des insectes, quelques bouts de métal entreposés et un oiseau. Il fait frais, presque humide.
Alors moi j'aime bien faire, si vous en voulez, servez, faites-vous plaisir parce qu'on a du mal à tout manger. Merci.
Vous pensez la noix de le gros noyer juste à côté?
Non, c'est celui qui est derrière.
Ah ouais, des nouvelles.
Elles sont maintenant. J'ai pas de casse-noix là.
Non, 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 c'est pas
Et la table n'est pas très solide.
Oui, ok.
Voilà, alors ce son assez particulier, on entend d'abord une description très spontanée d'un lieu avec plein de sons d'ambiance, on pourrait croire à du field recording avec ce son d'oiseau qu'on entend, et puis ce contraste d'un seul coup où on est dans une pièce, on entend des sons de noix, donc très 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 fort, et puis des voix plus lointaines masquées un peu par le bruit de ces noix. C'est très riche au niveau son, il y a à la fois de la description, de la saturation, une erreur de montage qu'on entend distinctement entre les deux parties, et ce sont des élèves donc, de l'école où tu es professeur qui ont réalisé cet extrait, mais qui rentrent dans un cadre plus global.
Oui, alors là, je trouvais que c'était une illustration intéressante par rapport à cette question des imaginaires radiophoniques de chacun et finalement de la capacité à chacun à produire quelque chose. Donc les élèves de l'école du paysage, donc c'est des élèves qui travaillent sur l'espace à différentes échelles. Et là, mon atelier était censé leur faire travailler la notion de projet de territoire. Donc ils étaient en trio et ils devaient réfléchir à une question en particulier à partir de projets locaux, donc autour de Blois. Et ce trio-là devait réfléchir à la question de noix, de noyer, de plantation de noyer dans la Beauce, qui n'est pas réputée pour sa richesse d'arbres, en arbres.
Alors, la Beauce, c'est cette région très plane.
Et très fertile et surtout très céréalière.
C'est ça.
Et en fait, les élèves ensuite étaient... Donc, moi, j'avais organisé des rendez-vous avec différents interlocuteurs, différents acteurs. Donc là, par exemple, sur ce sujet-là, il y avait des agriculteurs, il y avait aussi des techniciens, il y avait des élus. Enfin, voilà, il y avait plusieurs... Pour qu'ils aient cette notion de plusieurs voix, l'intérêt pédagogique que moi, j'y trouvais derrière, c'était évidemment la question des discours, des rencontres. Finalement, connaître les acteurs du territoire, c'est très important quand on travaille et qu'on va être soi-même concepteur. Mais aussi, ce que j'avais de manière sous-jacente avec ma pratique amateur de radio, c'était une attention aussi à l'écoute et du coup à l'utilisation du son comme un moyen d'expression. Et en fait, par cette réponse-là, ensuite, chaque groupe devait produire... La seule consigne, c'était moins de 30 minutes de son pour que ça puisse à peu près être écoutable. Et donc ensuite, chaque trio a choisi des pistes très diverses. Certains ont pris des angles très documentaires, certains très fictionnels. Ceux-ci, ils ont justement utilisé la fiction assez spontanément, en se positionnant, comme on entend Hélène au début décrire la scène, mais on entend aussi Ménie, une autre élève, à un moment donné, refabriquer un discours d'intervieweur, mais complètement réécrit. Donc en fait, l'utilisation de la fiction, très spontanément, a été leur outil pour raconter des histoires, pour assumer de les raconter, essayer bien sûr d'être dans le vrai, mais aussi assumer la part romancée, narrative, et donc presque fausse aussi parfois. Donc ce qui est intéressant dans l'extrait qu'on a écouté, c'est que parler de noyer, d'une nouvelle filière arboricole dans la Beauce, c'est à la fois un grand paysage, et donc c'est là où on entend cette description finalement où le son des noix est inaudible, par contre c'est la description qui va parler de paysage, et puis à l'inverse, la deuxième petite scène qu'on a entendue, là le son de la noix en elle-même, c'est-à-dire de l'objet noix presque, devient hyper fort avec ces noix qu'on entend se mêler les unes aux autres, et le discours de l'agriculteur un petit peu plus lointain. Alors ça pose la question, peut-être je précède ta question, mais ça pose la question des ressources de chacun en fait pour être prêt à entrer en création sonore. Là, ce sont des élèves qui ont une vingtaine d'années, ils ont leur imaginaire, et c'est vrai qu'en une semaine d'atelier, j'ai pas eu le temps d'aller explorer chacun des imaginaires, donc je leur faisais extrêmement confiance, et puis le trio, je pense, fabrique quelque chose à un moment donné. Et moi, je leur avais amené des références, pas beaucoup, parce que je suis persuadée qu'il faut, au contraire, donner plutôt une idée de l'ouverture potentielle et pas plein d'exemples à regarder. Donc, je leur avais montré je leur ai fait écouter trois choses. Le journal breton d'Inès Leroy pour le domaine de l'enquête, plutôt. Des documentaires réalisés par Clémentine Edelec, donc plutôt sur des entretiens in situ dans des fermes avec des agriculteurs pour qu'on ait cette notion d'ambiance en même temps que de discours, jusqu'à la fiction spatiale, puisqu'ils sont quand même paysagistes et donc j'avais envie de cette... Et là, j'avais choisi Sur les bancs de Thomas Baumgartner pour qu'ils aient cet angle très vaste pour leur montrer que la radio, ça peut être au moins tout ça.
On entend cette diversité dans cet extrait. D'ailleurs, c'est assez impressionnant l'audace des mélanges. Peut-être que quelqu'un qui aurait plus d'expérience n'aurait pas osé mettre autant de sons dans si peu de temps. assez libre donc dans la consigne avec quelques références et tu as parlé aussi de l'utilisation de la fiction. Alors Mélissa, toi aussi, est-ce que vous voyez l'utilisation de la fiction dans la création sonore pour créer un récit, pour peut-être se libérer aussi de quelque chose de réel et avoir une facilité à raconter quelque chose en racontant une histoire?
Moi, j'ai l'impression, enfin peut-être que Lolita pourra dire ce qu'elle en pense aussi, bien sûr, qu'en fait, l'idée d'aller capter du réel dans un atelier radio, ça peut faire peur. Parce que les gens imaginent que pour savoir capter le réel, il faut être journaliste ou documentariste ou que sais-je. Et en fait, si on leur dit fiction, invention, peut-être qu'ils se disent « Ah bon, bah alors du coup, je peux partir de moi. » Et tout de suite, ça semble beaucoup plus facile que de... j'ai l'impression qu'on a moins peur et de se dire du coup si je me trompe, si je dis mal quelque chose, si le son est un peu raté, c'est pas grave parce que je peux mentir en quelque sorte, je peux imaginer que, et en fait ça fait que le son semble, tout son du coup semble utilisable, semble légitime et bon parce qu'on peut imaginer ce que c'est.
Oui, je suis complètement d'accord et je pense que cette part de confiance et d'autonomie à un moment donné, elle naît par cette capacité à se sentir légitime, à raconter des histoires tout simplement et ensuite qu'elles soient vraies, fausses, qu'elles soient incarnées par un pronom personnel ou au contraire avec une distance très marquée, ça va dépendre effectivement de chacun, mais on voit comme les imaginaires sont singuliers en fait. Quand on met par exemple, quand les élèves là se sont retrouvés dans cette situation, on se rend compte à quel point ils partent tous d'endroits différents. Et c'est ça qui est très intéressant, je pense, dans ce genre d'expérience collective.
On va écouter quelqu'un qui raconte son histoire maintenant. Il s'appelle Omer. Il habite à Blois, dans le quartier Quinière. Et puis, oui.
Il faut prévenir sur la qualité quand même du son.
Comment ? Eh bien, justement, on en parlera après de cette qualité de son.
Et, mauvaise.
On écoute tout de suite Omer qui nous raconte son histoire.
Ici, là ? Ouais, bah, pas de problème. Ouais, de toute façon, moi, je le connais par cœur, ce quartier. Bon, malgré qu'il y a eu des. Après, il y a eu des embrouilles ici. Mais... Ah, moi, c'est. On m'appelle Tony Montana dans le milieu. Non, je rigole. Non, c'est Omer. Bah, comme vous êtes. À votre avis, j'ai quel âge, madame ? Enfin, à votre avis. Non, mais franchement, ouais, mais
Ah, 18 ans ? Moi, j'irais 16.
18 ? Non, pas assez, c'est 19. Non, j'irais pas, pourtant, je l'ai fait pas. Hein. Non, vite fait. J'arrive. Bientôt 20 ans, mais.
Et alors, toi, t'as grandi dans le quartier ?
Ah, ici, là ? Ouais, vers là. Mon père, il... Ouais. Avant, j'habitais, vous savez, où qu'ils ont détruit, à Place Cotier, là-bas ?
Ouais.
Vers la ZUP, où qu'ils ont détruit les bâtiments, là. Et en 2006, mon père il a décidé de déménager. Au début, il a déménagé juste derrière, tu sais, rue Vigneron. Ouais, c'est pas loin d'ici. C'est après le rond-point. Ah bah, il y a un jeune du quartier, ouais, Charlotte. Lui, on l'appelle Stromae. Allez.
Ouais. Les intervieweurs, ils font de la paix pour les quartiers. Où tu viens d'où, toi ?
Hein ? Ouais. Tu vas où, là ? Y'a qui là-bas ? Y'a du monde ou pas ? Vers le city ? D'avoir personne. Ouais, après, ouais, c'est des jeunes comme eux. Enfin, ouais, ils sont là. Mais j'ai habité pratiquement 9 ans ici. Ouais, bah, on passe souvent par là, ouais. Bah, vu qu'il y a des bâtiments, enfin, vu qu'ils habitent là et tout. Donc. Après, vous voulez qu'on fasse un tour là-bas ?
Voilà, Omer. Alors, j'ai vu le public parfois plisser les yeux, tendre l'oreille pour comprendre tout ce qu'il y a, toutes ces paroles. Est-ce que tu peux expliquer comment tu as pris ce témoignage ?
Oui, en fait, là, j'avais envie d'aller chercher dans mes archives pour prouver à quel point, quand on travaille dans des radios associatives, et je rejoins Mélissa sans aucune formation sonore, parfois on est face à ce genre de résultats. Omer, c'est un garçon que j'ai rencontré dans un quartier à Blois, un quartier de grands ensembles, où j'étais en résidence avec la radio Clown Caravane, et en fait j'avais envie d'une visite du quartier, mais l'entretien c'est pas si facile, surtout avec les jeunes du quartier qui en plus vivaient à ce moment-là avec l'installation d'une caméra de vidéosurveillance une grosse méfiance vis-à-vis du pouvoir public en règle générale, donc c'était pas facile d'arriver avec un micro, et en fait il a accepté de nous faire une visite du quartier, donc de manière très simple, et en fait il y avait toute cette fragilité, ces moments fugaces que je voulais garder, donc dans ces cas-là j'ai une façon de prendre du son qui est tout à fait certainement
non conventionnel. Pas,
complètement pas du tout conventionnel, qui est d'allumer le micro tout simplement et de le trimballer à la main, donc parfois face à la personne, mais parfois non, parce que c'est juste aussi un peu intrusif comme geste, donc parfois juste de l'avoir à côté de moi pour être témoin de ces moments fugaces, de ces discours en surface qui vont en fait laisser apparaître petit à petit des fragilités, des sensibilités de ce personnage finalement qui est plein de rêves, plein de doutes, plein de questions et qui avait envie de nous parler, mais pas de manière brute comme ça. Donc en fait, j'ai recomposé ensuite ce documentaire donc, qui s'appelle Odyssée et qui raconte cette visite et à travers cette visite qui essaye de raconter aussi sa part d'enfance qui s'en va. Il a 19 ans, il commence à devenir adulte et puis du coup on commence à sentir ses désirs un peu plus profonds de vie quoi. Et donc c'est un garçon que j'ai beaucoup aimé rencontrer, très loin d'une démonstration, mais ça montre voilà ce côté très brut, c'est vraiment parfois la radio associative, la création sonore en radio associative, c'est de l'urgence, c'est de la spontanéité, c'est de la quelque chose de très brut, un matériau plus ou moins écoutable. Alors je m'excuse par avance si ça ne l'était pas. En tout cas, moi, ce que j'ai aimé d'aller chercher cet extrait, ça montre bien aussi que on travaille, en tout cas au début, ça j'ai fait ça ma première année, donc on travaille sans aucune formation, ou très peu, à la limite juste d'apprendre à utiliser un zoom, c'est-à-dire appuyer sur on-off. Pas de formation, donc pas de formatage, donc pas d'école. Et c'est ce système complètement hors cadre, hors attendu des catégories classiques, peut-être de la création sonore ou radiophonique, qui laisse aussi une grande part de spontanéité et de liberté dans le résultat. Donc voilà, c'est...
Alors, toi, Mélissa, mais aussi Lolita, comment vous avez réussi à vous approprier ces outils techniques, quand même ? Toi, Mélissa, comment ça s'est passé quand il a fallu prendre un micro, enregistrer et se réécouter aussi derrière, ce qui n'est pas un exercice facile, on le sait ?
Mais je pense qu'il y a un moment, je me suis dit, de toute façon, je fais avec ce que j'ai. Donc oui, je pense que je me suis autorisée à faire, peut-être pour quelqu'un qui serait formé en technique, qui serait technicien son, il dirait, oh là là, il fait vraiment n'importe quoi. Et de se dire, mais en même temps, c'est pas grave, parce que les sons que je produis en faisant n'importe quoi, ils ont quelque chose d'unique. C'est-à-dire qu'il n'y a que moi qui peux produire ces sons-là, parce que j'ai l'audition que j'ai, parce que je tiens le micro même à l'envers, j'en sais rien. Mais du coup, de se dire, ça va donner un format sonore, un grain, particulier. Et j'ai l'impression que ça, c'est précieux. C'est ça qui fait qu'un son est intéressant et unique. C'est de se dire que même s'il avait envie, tel autre créateur sonore, telle autre personne n'arriverait pas à refaire la même chose. Il ne saisirait pas le réel de la même manière, parce qu'il ne l'entend pas de la même manière, parce qu'il sait se servir du matériel, parce qu'il a lu le mode d'emploi. Et c'est magique, et je crois que même les logiciels de montage, je ne sais pas m'en servir. Je mets le son dedans, bon après à l'œil je vois à peu près, je sais à peu près sur quoi il faut cliquer, mais il y a des effets, je m'en sers. Mais techniquement, à quoi correspondent les valeurs et tout, j'en sais rien. Je sais que si je veux que mon son ait tel rendu, il faut que je clique là-dessus. Et ça marche, mais après d'expliquer pourquoi ça marche, j'en sais rien. Et à côté de ça, c'est précieux aussi en atelier. Parce que quand j'ai face à moi des gens qui me disent « Ah, oh, mais j'ai peur, j'ai jamais fait de son », je leur dis « Je sais pas faire, je dis pas moi non plus, mais c'est pas grave ». Et du coup, il y a une confiance en fait, ça crée une sympathie pour l'objet radio, je crois.
Ouais, moi j'ai... En fait, moi j'avais, je crois, un grand désir d'enregistrer le réel, parce que je trouvais que chaque petite chose, chaque petite poésie quotidienne était si précieuse. Donc je me suis mis à tout enregistrer, j'ai acheté un zoom et j'ai tout enregistré, ma famille, mes amis qui n'en pouvaient plus, les bruits de la ville, plein de choses. C'était ma façon d'amplifier les sons du réel et de les garder et de trouver qu'il y avait de la poésie là-dedans et de commencer à couper des choses, à imaginer des recompositions de cette poésie-là pour en faire quelque chose. C'est la naissance de ma première émission qui s'appelle La moindre des choses et qui justement prend la moindre des choses, c'est-à-dire vraiment parfois un bruit de moteur pour en faire, on m'a dit une fois, une dame à l'écoute m'a dit, et c'est comme une petite leçon de philosophie avec le montage et avec des bruits très quotidiens et des enregistrements très quotidiens et des voix qui parlent de leur vie normale, et ben on arrive à rendre les choses ordinaires un peu extraordinaires. Et moi j'essaye de recomposer quelque chose qui me touche, Donc c'est vrai que l'enregistreur, moi au début je l'ai vu comme des méga oreilles qui allaient me permettre d'entendre encore mieux ce que je trouvais déjà formidable dans la vie réelle. Et donc je lui ai fait confiance, c'est-à-dire que j'avais pas besoin effectivement, comme dit Mélissa, d'apprendre à m'en servir. Il marchait très bien tout seul en fait, il suffit d'appuyer sur le bouton et ça amplifie les choses. Et ensuite par contre je pense que j'ai appris, la seule chose que j'ai appris, et on a beau... Il y a beaucoup de gens qui ont essayé de m'apprendre des meilleures compétences techniques, comme toi, Guillaume, qui est directeur du Studio Zef. Tu as essayé plusieurs fois, et puis à chaque fois, ça rentre dans une oreille, ça ressort par l'autre. Il y a vraiment un truc qui ne marche pas dans la technique chez moi. Par contre, je pense qu'il y a un truc que j'ai appris, c'est l'écoute, et à améliorer mon écoute, et du coup, à vraiment utiliser le micro comme une extension de mes oreilles, et donc à me faire confiance plutôt au niveau de mes oreilles que, effectivement, de comment le micro marche. Je ne sais absolument pas comment il marche, et je crois que je n'ai vraiment pas envie de savoir comment il marche.
Est-ce que finalement ce manque de dextérité dans l'utilisation des outils techniques, c'est pas retourné comme un avantage dans la création ?
En tout cas, ça devient presque un caractère. Et en tout cas, ça me permet, je crois... Enfin, après, ça m'a quand même valu quelques grosses frayeurs quand on me dit « Ah non, c'est vraiment pas écoutable, le son est vraiment dégueulasse. » Bon, là, j'avoue, ça me calme pendant quelques mois pour faire de la radio, puis après, ça revient quand même. Mais je crois que ce que ça me permet, c'est d'être très libre dans mon appréhension des choses et de décloisonner constamment les genres et d'oser parler, d'oser faire parler, d'oser enregistrer. Oui, ça, c'est sûr que... Pour ça, en tout cas, ça devient presque une caractéristique de la production radiophonique en ce qui me concerne.
Mélissa, sur cet avantage de la non-connaissance de l'outil technique, est-ce que tu qualifierais ça comme un avantage ou non ?
Alors oui, clairement. Hein. Après, bon, je ne suis pas très objective. Je ne veux pas dire « Oh non, non, c'est épouvantable » puisque c'est ce qu'on fait. Donc, je pense que ça autorise l'humour aussi, de se dire « Bah oui, c'est bancal ». Oui, c'est peut-être de la radio brute et singulière, je ne sais pas, mais... Et de se dire, bah, c'est drôle, en même temps, autant en rire. Donc oui, ça a l'air un peu raté comme ça, mais finalement, c'est comme un gâteau qui est un peu trop cuit, quoi, sur le dessus. Finalement, c'est trop cuit, mais c'est croustillant, donc c'est bon. Non, je pense vraiment que c'est un avantage et que ça donne justement des choses inattendues.
On écoute une petite dose d'humour, alors ? Dans ce cas-là, c'est parti.
Il y a de cela plus d'un siècle... En 1849, avec l'aide de deux collaborateurs, Pierre Janet a réalisé cet exploit, défiant la pudeur et la science, de réunir dans un ouvrage « Bibliotheca Scatologica », une bibliographie exhaustive de tous les textes parus jusqu'à cette date sur le caput mortuum de la chimie intestinale. Ce que Janet appelle encore, non sans pittoresque, le « démangé ».
Il y a dans l'être... quelque chose de particulièrement tentant pour l'homme. Et ce quelque chose est justement le caca !
Le classement opéré sur ses œuvres ne manque pas de drôlerie et donne une idée du calme des trois compères en matière scatologique. La division bibliographique est ainsi faite. K pour les livres relatifs à la matière fécale, vulgairement appelée caca. P pour les livres relatifs aux vents intestinaux, vulgairement appelé P. Et Q pour les livres relatifs aux parties postérieures et inférieures de l'homme, vulgairement appelé Q. La liste des ouvrages K, P, Q est précédée d'une introduction dans laquelle tous ceux qui seraient tentés de faire la fine bouche devant la réalité intestinale sont vertement gourmandés. Au fond, est-il dit, le K n'inspire pas autant de répugnance qu'on affecte d'en témoigner, car il n'est rien dont on s'occupe tant, il n'est rien qui poursuive autant l'homme, c'est l'ombre qui suit le corps.
Mais qu'est-ce que c'est que cette
du caca.
C'est de la merde.
On en trouve partout, chacun en fait, en voit, en sent, en touche. On parle, souvent on écrit, quelquefois on lit.
Je viens de terminer votre discours, monsieur le président.
Alors, qu'est-ce que je dis ?
Eh bien que tout est foutu, monsieur le président. Bon,
et si chacun n'en mange pas, chacun en voudrait manger.
Voilà, alors ce petit extrait de montage où tu t'es permis d'oser... Alors c'est toi qui a fait le montage, Mélissa ?
Alors... Ce montage, en fait, c'est un extrait des sons qui ont été construits avec des étudiants de l'université François Rabelais de Tours dans le cadre de la résidence du créateur sonore David Christoffel, qui est venu en résidence à l'université de Tours il y a 2 ans maintenant. Et Radio Campus Tours était associée à cette résidence ainsi qu'une autre radio associative de Tours, qui est Radio Béton. Et ce qui avait été demandé par David Christoffel, c'était que les étudiants enregistrent des textes scientifiques fantaisistes et que ces enregistrements soient confiés les mêmes enregistrements ou deux radios, et que chaque radio en fasse un objet sonore, donc enrichisse la lecture d'éléments. Et donc là, c'est moi qui avais fait ce montage-là, et il y a une idée de surimpression, en fait, de l'imaginaire de l'étudiant. Donc c'est lui qui a été choisir ce texte-là. Pourquoi ? Je ne sais pas. Il a choisi ce texte sur le caca. Et après, il y a l'idée de l'agrémenter d'autres éléments. Donc oui, j'ai été chercher des extraits de films, j'ai été chercher des musiques, il y a des enregistrements d'extérieur que j'ai remis par-dessus. Et voilà, oui, après, l'humour, moi, évidemment, ce qui me fait rire, c'est pas le côté scato, c'est pas ça qui est amusant, c'est de voir comment, finalement, j'ai réussi, ou pas, d'ailleurs, à décaler le propos de départ. Parce que ce qui amusait cet étudiant, c'était le côté un peu, provoque de choisir ce texte-là. Et il s'attendait absolument pas à ce que j'aille mettre des faux discours politiques derrière. Et donc, je crois que la radio permet ce jeu-là, et c'est des jeux, peut-être pas littéraires, mais c'est des jeux qu'on peut retrouver, je pense, dans une émission comme, c'est pas tout à fait pareil, mais dans Les Papous dans la tête, quand ils se donnent un texte, en fait, à réécrire, à continuer, à déplier. Et donc là, il y avait cette idée de jeu, voilà, et c'est précieux, je crois, dans la radio, quand on essaie de faire cette idée de jeu.
Et se permettre ce décalage, peut-être, entre un sujet sérieux, universitaire, se permettre de prendre un texte peu sérieux et puis finalement avec le montage lui redonner une valeur et en créer un objet qui est écoutable par tout le monde et qui s'écoute bien.
Enfin, j'ai l'impression que ce projet radio, ça fait un peu, vous allez me dire le mot parce que j'ai oublié, vous savez, sur les boîtes de vaches qui rient, là on voit dans la boucle d'oreille là, on voit la vache qui rit dans sa boucle d'oreille là.
Mettre en abîme.
Oui, voilà, merci. J'ai l'impression que c'est une répétition infinie en fait de la même idée de décalage, en fait. On la retrouve dans le choix du texte, on la retrouve dans les extraits sonores qu'on remet par-dessus, et même après tout dans l'écoute qui va être faite de ce contenu-là. On ne sait pas du tout quand ça va être écouté, par qui et comment, et du coup il y a cette idée permanente de l'objet sonore, une fois qu'on l'a lâché, il continue de vivre et on ne sait pas ce qui va devenir.
Une des caractéristiques de la radio associative, c'est la création à plusieurs, multiples, avec des univers complètement différents, entre personnes qui parfois n'ont jamais fait de radio, donc on le voit dans les ateliers, mais qui ont un univers à apporter et un mélange à faire avec d'autres personnes qui n'ont pas forcément plus d'expérience qu'elles dans la radio. On va écouter, pour finir cette émission, deux créations. La première, c'est une création autour de la Loire, qui est importante en région centre, d'où nous venons tous les trois, donc ce fleuve qui traverse la région centre. Tu voulais dire quelque chose, Lolita, autour de cette création ?
Oui, pour compléter ce que tu dis, le principe des radios associatives, c'est qu'elles sont ancrées dans un territoire, qu'elles sont ancrées dans des lieux et avec des gens, des habitants, des acteurs, des institutions, des partenaires. Et en fait, cette façon d'être très incarnée, finalement, très territoriale, les créations, enfin, la façon de vivre la création sonore, elle est aussi parfois liée à un jeu avec ces lieux et avec ces différents acteurs. Donc là, on va entendre une création in situ qui s'appelle La Loire parce qu'elle a été, fabriquée par trois bénévoles au tout début de la création de l'association des bénévoles de Studio Zef, donc qui s'appelle Les Effets Sonores. Donc on est trois, donc il y a Manu qui fait plutôt de la musique planante, il y a Dorothée qui fait des critiques de films et qui écrit des poèmes à partir de films, et puis il y a moi qui prends des sons du réel et qui rajoute des interviews, etc. Et on a mélangé tout ça pour en faire un son qui s'écoutait en bord de Loire à l'occasion d'une journée, comme on fait chaque année, où on descend dans l'espace public. Pour nous, c'est important, en fait, cette façon de jouer avec les lieux, mais c'est aussi important cette façon de faire écouter au public, aux habitants, donc de descendre dans l'espace public, de désincarner la radio, d'incarner la radio. Concrètement, la radio sort du studio et à un moment donné fait découvrir que la radio peut se faire à plusieurs, que tout le monde peut la faire, en tout cas que tout le monde peut écouter. Et donc là, c'était tout un système d'écoute réparti dans la ville, dans différents lieux qui nous intéressaient, que ce soit les grands ensembles, la gare, les jardins historiques et le bord de Loire. Donc là, on avait installé avec une charrette sonore des sièges, des vieilles radios, des casques, et puis on pouvait écouter cette création qui dure 4h30. Donc il y a juste 1 minute 30 qu'on peut écouter maintenant. Peut-être on écoute.
Suintement d'émotions et de blessures, de cet âge qui bascule dans la quête du soi et des autres. Et c'est Marie, Anne et Floriane qui nous font descendre dans les abysses d'un âge vertigineux où l'on s'échoue pour les premières fois. mais l'aiguille traverse et pique dans les illusions et les douleurs qui déjà font chuter les rêves innocents de la jeunesse.
En général, le courant est bien fort, donc faut vraiment engager franchement. T'y vas, t'engages franchement, et puis bah, si ça passe pas, faut envisager de reculer. S'y reprendre. Mais à la descente, le problème des ponts se pose aussi, il faut vraiment bien t'aligner. Certains ponts, le courant part en travers par rapport au. Le pont qui est comme ça, le courant t'emmène, forcément t'emmène sur une pile, donc faut anticiper, quand il va en crabe, et puis t'enroules au dernier moment.
Donc on entend dans cet extrait trois éléments principaux, c'est cette voix qui narre un texte plutôt poétique, cette ambiance électronique composée de nappes en fond, et puis ce témoignage d'un batelier de Loire.
Avec des sons du réel qui sont rajoutés par-dessus, les mouettes, le son de celui qui fait le sel dans les marais salants aussi. Oui, c'est ça, on entend tout ça. Alors après, ça n'a de valeur que pour l'événement, et ça, j'insiste aussi pour, là-dessus, c'est que peut-être que ce n'est pas exactement écoutable comme ça, mais en fait, c'est quelque chose, c'est une création qui n'a de valeur que de l'envie qu'on avait à ce moment-là de faire ça à plusieurs, dans un lieu, pour des habitants, en 2013, et de manière complètement éphémère, c'est-à-dire que ce sont 4h30 de création qui ne sont pas censées être écoutées ensuite. Et donc, bon, là, on a l'occasion de le réécouter, mais voilà, c'est aussi ça, la création sonore à plusieurs et en radio associative parfois, mais comme peut-être toute forme évidemment de création sonore, mais c'est que ça n'a qu'un temps et c'est lié à un événement particulier, quelque chose qui se produit, qui se fabrique et qui repart ensuite vers d'autres envies, quoi.
Pour bien resituer cette création in situ, c'est on écoutait cette création donc qui dure 4 heures, c'est bien ça, face à la Loire.
On n'était pas obligé de rester 4 heures. C'est qu'en fait, il n'y a pas tant d'habitants, enfin tant de visiteurs que ça qui longent la Loire. Donc on était vraiment installés au pied, enfin au bord de Loire. Donc déjà, c'est un endroit assez bucolique, mais aussi c'est juste un petit sentier qui passe à côté. Donc faut. On était dans la ville de Blois, mais il faut que les gens fassent l'effort de descendre. Donc, on avait 4h30 d'émission, de création, tout simplement pour, au moment où quelqu'un arrive, qu'il y ait quelque chose à écouter.
Par l'échange, il y a aussi l'échange de sons. On va écouter un extrait de carte postale sonore. Donc, vous utilisez toutes les deux ce concept de carte postale sonore. Là, on va écouter un son de Mélissa, puis on va expliquer un peu ce que vous entendez par carte postale sonore ensuite.
Vous ne pouvez pas rester.
Je vais bien. Que veniez-vous faire à la bibliothèque?
Et de Ligeti, je vous propose Ligeti est un compositeur assez dur, je dois l'avouer, mais il y a de très belles choses. C'est un compositeur que Kubrick aimait beaucoup d'ailleurs. Voici les deux premiers mouvements de son deuxième quatuor à cordes par le quatuor Bella.
C'est l'unique endroit où je ne me sens pas seule.
En résidence à Beyrouth.
Je vous préviens, il y a des amendes pour les livres rendus en retard.
À Beyrouth. Pour cette émission, le DAHU remercie et les paratonnerres en résidence à Beyrouth.
Encore une fois, un son foisonnant. Ce sont des extraits de radio, de télé qu'on entend, et puis ta voix qui vient par-dessus pour expliquer cette résidence à Beyrouth, donc.
Alors en fait, ça fait partie d'une collection de cartes postales sonores qui ont été construites avec une amie, Danielle, qui habite à Beyrouth, au Liban. Et le principe, c'est que Danielle m'envoie des sons du Liban, donc qu'elle enregistre justement avec un téléphone. Elle m'envoie ça par WeTransfer, et la seule chose que j'ai le droit d'ajouter dessus pour faire une carte postale, c'est ma voix. Et quand j'ai terminé ça, je renvoie la carte postale sonore avec des sons de tour. Et la seule chose qu'elle a le droit d'ajouter dessus, c'est sa voix. Et là, il se trouve en fait qu'elle a enregistré en voiture quelqu'un qui est en train de changer les stations de radio dans la voiture. Et il se trouve qu'au moment où elle m'envoyait ça, je faisais une émission Le Dahu qui racontait comment une pièce de théâtre qui parle du Liban avait été mise en scène, qui s'appelle Les Paratonnerres. Et donc, c'était vraiment un hasard étonnant, j'ai juste récupéré l'introduction de l'émission qui dit Le Dahu, les paratonnerres au Liban. J'ai juste rajouté ça dessus, parce que il me semblait que ça suffisait. Voilà.
Très bien.
Il y a vraiment, enfin, je me souviens quand tu nous avais parlé de ce projet, enfin, de ce projet radio que vous faites ensemble, la question aussi des coïncidences dans les rencontres, c'est un peu ce que je racontais tout à l'heure avec l'ordre du jour, c'est qu'il y a des choses qui se fabriquent, qui sont très spontanées, de rencontres, ensuite de filiation, d'échanges, et puis après presque des confiances mutuelles qui te font rencontrer encore d'autres gens, qui vont fabriquer à un moment donné quelque chose ensemble, presque par hasard, quoi. L'intérêt de la coïncidence, bon, je pense que c'est dans toute forme de création, évidemment, mais c'est vrai que voilà, ça incarne bien aussi cet échange que tu as avec cette personne au Liban.
Alors, je ne sais pas si on a le temps, mais peut-être que je peux juste dire qu'en fait, Danielle, je l'ai rencontrée à Paris dans le cadre d'une formation pour faire des documentaires ethnographiques. Voilà, l'idée, c'était de fabriquer des films, et moi, j'étais dans un groupe qui travaillait à Rabat, et Danielle était dans le même groupe, mais pour le Liban, en fait. Et les deux groupes se sont rencontrés à Paris. Et Danielle a relu mon projet de film en discutant. Elle m'a dit « Ah, c'est amusant, tu viens de Tours, mais sache que j'ai fait mon lycée à Tours. » Et elle a vu que j'avais fait une émission, un Dahu, sur les auteurs malgaches, donc Jean-Luc Raharimanan. Et elle me dit « Ah, c'est étonnant, parce que j'avais fait un atelier théâtre avec cet auteur-là quand j'étais au lycée à Tours. » Et donc finalement, c'était très étonnant comment de voir qu'il y a des liens comme ça, involontaires, mais qui se créent entre les gens, par l'art en fait, par des liens à travers le temps et l'espace, et finalement le lien qui a été refait, là c'était grâce à la radio, parce que grâce à la radio on est en train de faire un pont entre Tours et le Liban où Danielle est repartie, et elle a été remise en lien en fait avec cet auteur malgache, et moi je continue de faire des ateliers radio avec cet auteur là auprès de jeunes gens en fait. Donc c'est ça qui est fascinant avec la radio, c'est que ça crée des liens inattendus.
On arrive à la fin de cette émission. Je ne sais pas si on a répondu à cette vaste question, qu'est-ce que la création radiophonique en radio associative. En tout cas, j'espère que les personnes qui nous auront écoutés sont pleines d'idées maintenant, qu'ils ont envie de créer, de faire aussi à leur tour des cartes postales sonores, des ateliers ou des créations in situ, pourquoi pas. Est-ce que vous avez un mot, une conclusion pour cette émission?
Oui, moi je voudrais répéter quelque chose qu'un autre homme de radio m'a dit à un moment donné. On était en visite tous les deux à Bob FM à Limoges, et le directeur de la radio nous a glissé, donc on discutait en fait de la vie de nos radios respectives, et à un moment donné il a dit cette phrase, il a dit « mais en fait nous ce qu'on fait dans les radios associatives, c'est pas grave ». Et ça m'a fait un bien fou, c'est ce qui m'a fait ensuite commencer l'ordre du jour, donc en direct à la radio. C'est pas grave, on est des gens qui parlent à des gens, et on permet à chacun d'exprimer des choses, et voilà, c'est pas grave. C'est quelque chose qui reste pour moi un peu de l'ordre de la création sonore dans les radios associatives.
Alors je vois que vous me regardez, donc c'est pour justement mon mot de la fin. Et ben moi je dis non à la radio filmée, parce que s'il y a des images, je pourrais plus voyager dans le temps et dans l'espace. Comme je le fais actuellement entre Marseille, entre le Liban, entre Madagascar et plein d'autres endroits. Et donc c'est pour ça que je me dis on n'a absolument pas besoin d'images. Et donc vive la radio sans images.
Garder la capacité du son à être dématérialisé et à voguer comme ça dans l'air.
En discutant tous les trois pour préparer cette émission, on s'était dit que finalement une façon de peut-être définir ce qui caractérisait la création sonore dans les radios associatives, c'est que c'est modeste, brut, singulier, et puis on s'était dit finalement voilà, c'est sans prétention, sans cadre et sans importance. Et voilà, je pense que ça peut-être ça ouvre plein de champs à plein de gens qui ont envie aussi peut-être de s'exprimer de cette manière.
J'aimerais rajouter quelque chose, mon expérience personnelle de radio associative. Moi, quand j'ai commencé la radio associative, j'étais un technicien audiovisuel formé et très peut-être exigeant envers les sons, envers l'écoute, envers les bénévoles aussi. Et de côtoyer ces bénévoles en étant d'abord technicien puis ensuite directeur d'une radio associative, c'est vraiment d'apprendre cette notion de pas grave et de création et de liberté qui aujourd'hui cette liberté me permet de créer sans trop me prendre la tête, voilà, on va le dire clairement, sur est-ce que ma transition est parfaitement faite, est-ce que telle fréquence je ne devrais pas la baisser, et ça m'a appris à déconstruire, en fait j'ai déconstruit mes connaissances pour me sentir plus libre ensuite dans la radio et dans la création sonore. Merci.
Merci à vous.
Au revoir à tous.